Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Bonjour, c'est Béatrice. Avez-vous déjà posé le pied sur le sol d'Afrique noire? Avez-vous déjà senti cette odeur de terre, d'herbe sèche, de poussière? C'est une odeur qui vous prend à la gorge dès la descente de l'avion. Aujourd'hui, nous partons pour l'Afrique, le Kenya, au pied d'une gong, sur les hauts plateaux qui entourent le Kilimandjaro. Nous sommes dans les années 20, dans une demeure coloniale au milieu d'une plantation de café. Toute la maison est ouverte. Les peuples indigènes y vont et viennent. Des Maasai, des Somalis, des Kikuyu, des enfants. Ils font paître leurs chèvres dans le jardin face à la terrasse. Au loin, on voit des troupeaux de buffles près de la réserve d'eau, et à l'arrière on entend ronfler la grande installation destinée au séchage et à la torréfaction du café. Le décor est planté. Le titre du livre, c'est « La ferme africaine ». Son auteur, Karen Blixen, écrit des contes et des nouvelles depuis toujours. Mais pour ce long récit de plus de 500 pages, ce n'est pas son imaginaire qu'elle sollicite, c'est son vécu. Quel ravissement qu'habiter les terres sauvages d'Afrique en compagnie de cette grande dame de la noblesse danoise. C'est d'un pas lent et assuré qu'on explore avec elle cet autre monde, si loin de tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'ici. Avant de reprendre en main la plantation, Karen Blixen est une passionnée de chasse. Elle décrit la savane comme on peint un tableau. Voici quelques lignes du début de ce livre. Fermez les yeux, écoutez sa voix, imaginez. Les Maasai, des nomades pasteurs qui étaient voisins de la ferme et vivaient sur l'autre rive du fleuve, venaient parfois me trouver pour se plaindre qu'un lion suivait leur troupeau et s'en prenait à leurs vaches. Ils me demandaient de l'abattre et je le faisais chaque fois que je pouvais. Au cours des safaris, j'ai vu un troupeau de buffles surgir de la brume matinale sous un ciel cuivré. Et j'aurais pu croire que ces lourdes bêtes grises aux cornes puissantes et droites ne venaient pas vers moi, mais qu'elles avaient été créées juste pour mon regard au fur et à mesure qu'elles étaient achevées. J'ai vu un troupeau d'éléphants en marche dans la forêt vierge, où la lumière du jour s'infiltre entre les grosses branches et les plantes volubiles pour former sur le sol des petites taches et des éclaboussures qui semblent avoir un rendez-vous avec le bout du monde. On aurait dit, en format géant, la bordure d'un ancien tapis persan, infiniment précieux dans les tons de vert, d'or, de brun. J'ai maintes fois vu des girafes arpenter la plaine avec leur grâce incomparable, quasi végétative, comme s'il ne s'agissait pas d'un troupeau d'animaux, mais d'une famille de rares fleurs colossales, tachetées et montées sur de hautes tiges. J'ai suivi deux rhinocéros dans leur promenade à l'aube. Ils s'ébrouaient et renaclaient dans l'air clair et frais, comme deux gros rocs anguleux à qui l'on aurait insufflé la vie. Ils s'amusaient dans les hautes herbes de la vallée. « Karen Blixen vit encore en un temps où il sied de chasser et où la place de l'homme se conquiert au milieu des animaux. Rien ne choque alors dans l'idée de chasser, cela semble être inscrit dans les règles du jeu. Arpenter l'Afrique en compagnie de Karen Blixen, ce n'est pas seulement un dépaysement, c'est surtout la découverte d'autres repères. On apprend beaucoup à ses côtés. Voici comment elle parle du mouvement et du silence. Nous, les gens civilisés, nous ne savons plus rester immobiles. Et il nous faut prendre des leçons de silence auprès des animaux sauvages avant que ceux-ci nous accueillent parmi eux. Se déplacer doucement, sans geste brusque ni bruit, est un art que le chasseur doit maîtriser avant tout. Les chasseurs ne peuvent en faire qu'à leur tête. Il leur faut d'abord s'adapter aux teintes du paysage, à ses odeurs et au vent, et suivre le tempo propre à ce grand orchestre. Ils répètent parfois la même cadence, il faut la suivre si l'on cherche l'unisson. Lorsque, par la chasse, on s'imprègne du rythme de l'Afrique, on comprend qu'il imprime sa marque à toutes les formes de vie. Et ce que les bêtes sauvages m'ont appris, j'ai pu l'employer dans mes relations avec les indigènes. Karen Blixen n'hésite pas à travailler la terre au milieu des indigènes. Elle accepte parfois de démêler des situations dont elle pourrait aisément se passer. Mais elle est émue. Elle se bat pour eux dès qu'ils lui demandent. Elle obtient des terres. Et régulièrement, elle s'improvise aussi médecin. Mes patients m'attendaient sur la terrasse pavée devant la maison. Ils étaient là, accroupis. Les vieillards, maigres comme des squelettes, à la toux caverneuse et aux yeux larmoyants. Les jeunes bagarreurs, élancés et imberbes, aux yeux tuméfiés, aux mâchoires cassées. Les mères, avec leurs enfants brûlants de fièvre, accrochés à leur cou comme de petites fleurs fanées. En réalité, j'avais fort peu de connaissances médicales, si ce n'est ce que l'on apprend à un cours de secourisme. Mais ma réputation de médecin avait été établie, une fois pour toutes, après une ou deux cures miraculeuses que j'avais eu la chance de réaliser. Et même les erreurs funestes que j'avais pu commettre ne l'avaient point entamée. Blixen possède cette humilité toute particulière, cette distance chevaleresque, qui consiste à convenir que parfois, une chose est trop étrangère pour être accessible. Elle accepte de ne pas comprendre. Elle observe les indigènes sans jamais les juger. Voici comment elle repère certaines différences fondamentales. Les Kikuyu s'attendent à l'imprévu et sont habitués à l'inattendu. Ils se différencient en cela des Européens qui, eux, préfèrent se prémunir contre le sort. Les Kikuyu entretiennent une relation d'amitié et de confiance avec le destin. Ils remettent leur vie entre les mains du destin, et pour eux, il est pour ainsi dire aussi familier que le foyer. Ils forment un terreau profond pour leurs racines. Ils acceptent les aléas de l'existence avec force calme et contenance. Parmi les qualités qu'ils cherchent et attendent chez leur maître, leur docteur ou Dieu, l'imagination occupe une place de choix. Lorsque les Africains parlent de la nature de Dieu, ils s'attardent particulièrement sur son imagination prodigieuse. Ils ont une profonde hostilité contre la régularité et possèdent un courage véritable. cet amour sincère du danger qui est la réponse de la création à la prédiction de son destin et qui sonne comme l'écho montant de la terre quand le ciel a parlé. L'imagination. Y a-t-il moyen plus ingénieux pour approcher l'idée du divin? Placer l'imagination comme valeur suprême, c'est une véritable leçon de philosophie que les indigènes nous apprennent sans en avoir l'air. Tout le livre provoque la rencontre entre deux modes de pensée. Il y a une scène amusante que je voudrais vous lire. Les enfants nourrissaient un grand amour et de l'enthousiasme pour la civilisation. Pour eux, elle n'est pas dangereuse. Ils pouvaient s'en échapper quand ils le désiraient. Elle était incarnée par un vieux coucou allemand accroché dans la salle à manger. Cette horloge avait fière allure. Au milieu d'un bouquet de roses rouges et rondes, une petite porte s'ouvrait à chaque heure et un coucou en surgissait pour sonner l'heure d'une voix forte et solennelle. Chaque fois, son apparition faisait les délices des jeunes de la ferme. D'après la position du soleil dans le ciel, les enfants savaient avec précision quand se produirait la sonnerie du midi. Et dès 11h30, je les voyais s'approcher de la maison, venant de tous côtés, suivis de leurs troupeaux de chèvres qu'ils n'osaient pas abandonner. Les têtes noires des enfants et celles brunes et blanches des chèvres se frayaient un chemin à travers les buissons et les hautes herbes du bois, et elles dépassaient comme des têtes de grenouilles dans un réservoir. Les garçons laissaient paître leurs chèvres sur la pelouse et ils entraient sans bruit, pieds nus. Les plus âgés avaient peut-être 10 ans, les plus jeunes à peine plus de 2 ans. Ils se tenaient fort bien et observaient une sorte de rituel de mon cru. Il leur était permis de se déplacer librement dans ma maison à condition de ne rien toucher, de ne pas s'asseoir et de ne pas parler sans être interrogés. Quand le coucou bondissait de sa porte, une onde de ravissement et de rires étouffés secouait la petite troupe. Il arrivait aussi parfois qu'un tout petit berger reste perdu à contempler l'horloge close et muette et après un certain temps lui adresse en kikuyu une déclaration d'amour prolixe et chantante, puis ressorte d'un pas aussi grave qu'il était venu. Bienveillance et humour. L'écriture de Karen Blixen ressemble à un grand livre d'images que l'on feuillette, le sourire aux lèvres. Un des premiers mois qui suivirent mon arrivée en Afrique, un jeune laitier, très timide, vint m'apprendre à compter en swahili. Étant donné que le nombre 9 en swahili a une résonance douteuse aux oreilles suédoises, il ne voulait pas me le dire, et après avoir compté 7, 8, il s'arrêta brusquement, détourna les yeux et déclara « Il n'y a pas de 9 en swahili ». Voulait dire qu'ils ne savent pas compter au-delà de 8 ? Non, non, répliqua-t-il promptement, ils ont 10, 11, 12 et ainsi de suite, mais il n'y a pas de 9. Comment est-ce possible ? Demandai-je avec étonnement. Comment font-ils lorsqu'ils arrivent à 19 ? Ils n'ont pas de 19 non plus, dit-il en rougissant, mais d'un ton très assuré. Ni de 90, ni de 900. Mais par ailleurs, ils ont tous nos chiffres. Ce système me préoccupa longtemps et me causa aussi beaucoup de joie. « Voilà enfin un peuple, me disais-je, qui a le courage et l'indépendance d'esprit pour rompre avec la pédanterie de notre numération antique. » Lorsque je me mis à développer mes théories et à les présenter à d'autres personnes, elles m'interrompirent et m'éclairèrent. Mais j'ai encore le sentiment qu'il existe une numération indigène sans le chiffre 9, qui fonctionne très bien et grâce à laquelle on découvre beaucoup de choses. Karen Blixen écrit comme elle est, comme elle vit. Mille et une péripéties se passent au sein de son petit monde. Des temps heureux et beaucoup de difficultés aussi. Un incendie qui détruit sa récolte, la faillite et puis le deuil. Au milieu de tout cela, Karen Blixen ne s'apitoie jamais. Ce qui reste d'elle après l'avoir lu, c'est le sentiment d'une grande noblesse. Qu'est-ce que la noblesse ? On n'en parle plus aujourd'hui, c'est un mot démodé. Pourtant, la noblesse n'est pas forcément liée à la royauté. La noblesse, chez Karen Blixen, c'est une qualité de regard et d'écoute. C'est l'humble dévotion dont elle fait preuve envers ceux qui ont besoin. La noblesse, c'est aussi cette grandeur d'âme qui efface d'emblée toute consternation, tout accablement, et qui génère l'humour à la place. Le film Out of Africa, réalisé par Sidney Pollack en 1985, est très éloigné du livre. Le scénario a été sans doute inspiré davantage par la vie de l'auteur que par ce qu'elle écrit. Le cadre et les paysages sont somptueux, c'est vrai, comme les descriptions du livre. Mais il manque à Meryl Streep l'humour de Karen Blixen. Les infidélités faites à l'écriture n'en font pas moins un film absolument admirable. Meryl Streep est une actrice hors pair. Je me souviens de cette scène de nuit, dans un campement au milieu de la brousse, quand un lion attaque son troupeau. À force de courage et de ténacité, elle parvient à le chasser avec un simple fouet. Quant à l'histoire d'amour avec Denis, interprétée par Robert Redford, elle est inexistante dans le livre. C'est pourtant le cœur du film. L'amour et la liberté y sont sublimement abordés. Deux solitudes qui convergent vers la possible union de l'amour et de la liberté. Le film est une marche lente vers leur rencontre authentique. Je voudrais finir par quelques extraits choisis pour lesquels le livre et le film sont en parfaite correspondance. L'Afrique vue d'en haut, depuis le petit avion de Denis. Ici, l'élément essentiel du paysage et de la vie n'était autre que l'air lui-même. Lorsque l'on se remémore un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on est saisi, car on a l'impression d'avoir longtemps vécu dans les airs. Le ciel n'était jamais très bleu, mais souvent pâle et lumineux, que les yeux le fixaient avec peine. Un royaume de nuages, immense, impondérable et fluctuant, se dressait à l'horizon, le traversait. Et s'y perdait. Dans le massif, le vent souffle continuellement. À notre altitude, on eût dit la légère résistance de l'éther lorsque la terre se jette dans l'espace. C'est ici que s'achève notre podcast, mais le voyage en Afrique se poursuit dans le livre. Je vous invite à le lire. Karen Blixen est une si délicieuse compagnie. Retrouvez cette grande dame sur la page de notre site qui lui est consacrée. Notre adresse, toutavecpresquerien.com. À bientôt.